deux ans après l'hiver, où M. Claës était devenu chimiste, sa maison avait changé d'aspect, soit que la société se choquât de la distraction perpétuelle du savant, ou crut le gêner, soit que ses anxiétés secrètes eussent rendu Mme Claës moins agréable, elle ne voyait plus que ses amis intimes. Balthazar n'allait nulle part, s'enfermait dans son laboratoire pendant toute la journée, y restait parfois la nuit, et n'apparaissait au sein de sa famille qu'à l'heure du dîner. Dès la deuxième année, il cessa de passer la belle saison à sa campagne, que sa femme ne voulut plus habiter seule. Quelquefois, Balthazar sortait de chez lui, se promenait et ne rentrait que le lendemain, en laissant Mme Claës pendant toute une nuit livrée à de mortelles inquiétudes, après l'avoir fait infructueusement chercher dans une ville dont les portes étaient fermées le soir, suivant l'usage des places fortes, elle ne pouvait envoyer à sa poursuite dans la campagne. La malheureuse femme n'avait même plus alors l'espoir mêlé d'angoisse que donne l'attente, et souffrait jusqu'au lendemain. Balthazar, qui avait oublié l'heure de la fermeture des portes, arrivait le lendemain tout tranquillement, sans soupçonner les tortures que sa distraction devait imposer à sa famille. Et le bonheur de le revoir était pour sa femme une crise aussi dangereuse que pouvaient l'être ses appréhensions. Elle se taisait, n'osait le questionner, car, à la première demande qu'elle fit, il avait répondu d'un air surpris : « Eh bien quoi ? L'on ne peut pas se promener ? Les passions ne savent pas tromper. » Les inquiétudes de Mme Claës justifièrent donc les bruits qu'elle s'était plu à démentir. Sa jeunesse l'avait habituée à connaître la pitié polie du monde. Pour ne pas la subir une seconde fois, elle se renferma plus étroitement dans l'enceinte de sa maison, que tout le monde déserta, même ses derniers amis. Le désordre dans les vêtements, toujours si dégradant pour un homme de la haute classe, devint tel chez Balthazar qu'entre tant de causes de chagrin, ce ne fut pas l'une des moins sensibles dont s'affecta cette femme habituée à l'exquise propreté des Flamandes. De concert avec le mulquinier, valet de chambre de son mari, Joséphine remédia pendant quelque temps à la dévastation journalière des habits, mais il fallut y renoncer. Le jour même où, à l'insu de Balthazar, des effets neufs avaient été substitués à ceux qui étaient tachés, déchirés ou troués, il en faisait des haillons. Cette femme heureuse pendant 15 ans, et dont la jalousie ne s'était jamais éveillée, se trouva tout à coup n'être plus rien en apparence, dans le cœur où elle régnait naguère. Espagnole d'origine, le sentiment de la femme espagnole gronda chez elle quand elle se découvrit une rivale dans la science, qui lui enlevait son mari. Les tourments de la jalousie lui dévorèrent le cœur et rénovèrent son amour. Mais que faire contre la science? Comment en combattre le pouvoir incessant, tyrannique et croissant? Comment tuer une rivale invisible? Comment une femme, dont le pouvoir est limité par la nature, peut-elle lutter avec une idée dont les jouissances sont infinies et les attraits toujours nouveaux? Que tenter contre la coquetterie des idées qui se rafraîchissent, renaissent plus belles dans les difficultés et entraînent un homme si loin du monde qu'il oublie jusqu'à ses plus chères affections? Enfin, un jour, malgré les ordres sévères que Balthazar avait donnés, sa femme voulut au moins ne pas le quitter, s'enfermer avec lui dans ce grenier où il se retirait, combattre corps à corps avec sa rivale, en assistant son mari durant les longues heures qu'il prodiguait à cette terrible maîtresse. Elle voulut se glisser secrètement dans ce mystérieux atelier de séduction et acquérir le droit d'y rester toujours. Elle essaya donc de partager avec le mulquinier le droit d'entrer dans le laboratoire. Mais, pour ne pas le rendre témoin d'une querelle qu'elle redoutait, elle attendit un jour où son mari se passerait du valet de chambre Depuis quelque temps, elle étudiait les allées et venues de ce domestique, avec une impatience haineuse. Ne savait-il pas tout ce qu'elle désirait apprendre, ce que son mari lui cachait, et ce qu'elle n'osait lui demander? Elle trouvait le mulquinier plus favorisé qu'elle. Elle, l'épouse. Elle vint donc tremblante et presque heureuse. Mais, pour la première fois de sa vie, elle connut la colère de Balthazar. À peine avait-elle entrouvert la porte, qu'il fondit sur elle, la prit, la jeta rudement sur l'escalier, où elle faillit rouler du haut en bas. « Dieu soit loué, tu existes !» cria Balthazar en la relevant. Un masque de verre s'était brisé en éclats sur Madame Claès qui vit son mari pâle, blême, effrayé. « Ma chère, je t'avais défendu de venir ici, » dit-il en s'asseyant sur une marche de l'escalier, comme un homme abattu. « Les saints t'ont préservé de la mort. Par quel hasard mes yeux étaient-ils fixés sur la porte ? Nous avons failli périr ? J'aurais été bien heureuse alors, » dit-elle. « Mon expérience est manquée, » reprit Balthazar. « Je ne puis pardonner qu'à toi la douleur que me cause ce cruel mécompte. J'allais peut-être décomposer l'azote. Va, retourne à tes affaires. » Balthazar rentra dans son laboratoire. « J'allais peut-être décomposer l'azote, » se dit la pauvre femme, en revenant dans sa chambre, où elle fondit en larmes. Cette phrase était inintelligible pour elle. Les hommes, habitués par leur éducation à tout concevoir, ne savent pas ce qu'il y a d'horrible pour une femme à ne pouvoir comprendre la pensée de celui qu'elle aime. Plus indulgents que nous ne le sommes, ces divines créatures ne nous disent pas, quand le langage de leurs âmes reste incompris. Elles craignent de nous faire sentir la supériorité de leurs sentiments, et cachent alors leur douleur avec autant de joie qu'elles taisent leurs plaisirs méconnus. Mais plus ambitieuses en amour que nous ne le sommes, elles veulent épouser mieux que le cœur de l'homme. Elles en veulent aussi toute la pensée. Pour Madame Claès, ne rien savoir de la science dont s'occupait son mari engendrait dans son âme un dépit plus violent que celui causé par la beauté d'une rivale. Une lutte de femme à femme laisse à celle qui aime le plus l'avantage d'aimer mieux. Mais ce dépit accusait une impuissance et humiliait tous les sentiments qui nous aident à vivre. Joséphine ne savait pas. Il se trouvait, pour elle, une situation où son ignorance la séparait de son mari. Enfin, dernière torture, et la plus vive, il était souvent entre la vie et la mort. Il courait des dangers, loin d'elle et près d'elle, sans qu'elle les partageât, sans qu'elle les connût. C'était, comme l'enfer, une prison morale sans issue, sans espérance. Madame Claes voulut au moins connaître les attraits de cette science, et se mit à étudier en secret la chimie dans les livres. Cette famille fut alors comme cloîtrée. Telles furent les transitions successives par lesquelles le malheur fit passer la maison Claes avant de l'amener à l'espèce de mort civile dont elle est frappée au moment où cette histoire commence. Cette situation violente se compliqua. Comme toutes les femmes passionnées, Madame Claès était d'un désintéressement inouï. Ceux qui aiment véritablement savent combien l'argent est peu de chose, auprès des sentiments, et avec quelles difficultés ils s'y agrègent. Néanmoins, Joséphine n'apprit pas, sans une cruelle émotion, que son mari devait 300 000 francs, hypothéqués sur ses propriétés. L'authenticité des contrats sanctionnait les inquiétudes, les bruits, les conjectures de la ville. Madame Claès, justement alarmée, fut forcée, elle si fière, de questionner le notaire de son mari, de le mettre dans le secret de ses douleurs, ou de les lui laisser deviner, et d'entendre enfin cette humiliante question. « Comment Monsieur Claès ne vous a-t-il encore rien dit ?» Heureusement, le notaire de Balthazar lui était presque parent, Et voici comment. Le grand-père de M. Claës avait épousé une Pierrequin d'Anvers, de la même famille que les Pierrequins de Douai. Depuis ce mariage, ceux-ci, quoique étrangers aux Claës, les traitaient de cousins. M. Pierrequin, jeune homme de 26 ans, qui venait de succéder à la charge de son père, était la seule personne qui eut accès dans la maison Claës. Madame Balthazar avait, depuis plusieurs mois, vécu dans une si complète solitude que le notaire fut obligé de lui confirmer la nouvelle des désastres, déjà connue dans toute la ville. Il lui dit que, vraisemblablement, son mari devait des sommes considérables à la maison qui lui fournissait des produits chimiques. Après s'être enquis de la fortune et de la considération dont jouissait M. Claës, cette maison accueillait toutes ses demandes et faisait les envois sans inquiétude, malgré l'étendue des crédits. Madame Claës chargea Pierrequin de demander le mémoire des fournitures faites à son mari. Deux mois après, messieurs Protée et Chiffreville, fabricants de produits chimiques, adressèrent un arrêté de compte qui montait à 100 000 francs. Madame Claës et Pierrequin étudièrent cette facture, avec une surprise croissante, si beaucoup d'articles, exprimés scientifiquement ou commercialement, étaient pour eux inintelligibles, ils furent effrayés de voir portés en compte des parties de métaux, des diamants de toutes les espèces, mais en petite quantité. Le total de la dette s'expliquait facilement par la multiplicité des articles, par les précautions que nécessitait le transport de certaines substances, ou l'envoi de quelques machines précieuses, par le prix exorbitant de plusieurs produits qui ne s'obtenaient que difficilement, ou que leur rareté rendait cher, enfin par la valeur des instruments, de physique ou de chimie, confectionnés d'après les instructions de M. Claës. Le notaire, dans l'intérêt de son cousin, avait pris des renseignements sur les Protée et Chiffreville, et la probité de ces négociants devait rassurer sur la moralité de leurs opérations. Avec M. Claës, à qui, d'ailleurs, il faisait souvent part des résultats obtenus par les chimistes de Paris afin de lui éviter des dépenses. Madame Claës pria le notaire de cacher à la société de Douai la nature de ses acquisitions, qui eussent été taxées de folie. Mais Pierrequin lui répondit que déjà, pour ne point affaiblir la considération dont jouissait Claës, il avait retardé jusqu'au dernier moment les obligations notariées, que l'importance des sommes prêtées de confiance par ses clients avait enfin nécessité. Il dévoila l'étendue de la plaie, en disant à sa cousine que, si elle ne trouvait pas le moyen d'empêcher son mari de dépenser sa fortune si follement, dans 6 mois les biens patrimoniaux seraient grevés d'hypothèques qui en dépasseraient la valeur. Quant à lui, ajouta-t-il, les observations qu'il avait faites à son cousin, avec les ménagements dus à un homme, si justement considérés, n'avaient pas eu la moindre influence. Une fois pour toutes, Balthazar lui avait répondu qu'il travaillait à la gloire et à la fortune de sa famille. Ainsi, à toutes les tortures du cœur que Madame Claës avait supportées depuis 2 ans, dont chacune s'ajoutait à l'autre et accroissait la douleur du moment, de toutes les douleurs passées, se joignit une crainte affreuse, incessante, qui lui rendait l'avenir épouvantable. Les femmes ont des pressentiments dont la justesse tient du prodige. Pourquoi, en général, tremblent-elles plus qu'elles n'espèrent quand il s'agit des intérêts de la vie? Pourquoi n'ont-elles de foi que pour les grandes idées de l'avenir religieux? Pourquoi devinent-elles si habilement les catastrophes de fortune ou les crises de nos destinées? Peut-être le sentiment qui les unit à l'homme qu'elles aiment leur en fait-il admirablement peser les forces, estimer les facultés, connaître les goûts, les passions, les vices, les vertus. La perpétuelle étude de ces causes, en présence desquelles elles se trouvent sans cesse, leur donne sans doute la fatale puissance d'en prévoir les effets dans toutes les situations possibles. Ce qu'elle voit du présent leur fait juger l'avenir avec une habileté, naturellement expliquée par la perfection de leur système nerveux, qui leur permet de saisir les diagnostics les plus légers de la pensée et des sentiments. Tout en elles vibre à l'unisson des grandes commotions morales, où elles sentent, où elles voient. Or, quoique séparée de son mari depuis 2 ans, Madame Claes pressentait la perte de sa fortune. Elle avait apprécié la fougue réfléchie, l'inaltérable constance de Balthazar. S'il était vrai qu'il cherchât à faire de l'or, il devait jeter avec une parfaite insensibilité son dernier morceau de pain dans son creuset. Mais que cherchait-il? Jusque-là, le sentiment maternel et l'amour conjugal s'étaient si bien confondus dans le cœur de cette femme que jamais ses enfants, également aimés d'elle et de son mari, ne s'étaient interposés entre eux. Mais tout à coup, elle fut parfois plus mère qu'elle n'était épouse, quoiqu'elle fût plus souvent épouse que mère. Et néanmoins, quelque disposée qu'elle pût être à sacrifier sa fortune, et même ses enfants, au bonheur de celui qu'il avait choisi, aimé, adoré, et pour qui elle était encore la seule femme qu'il y eût au monde, les remords que lui causaient la faiblesse de son amour maternel la jetaient en d'horribles alternatives. Ainsi, comme femme, elle souffrait dans son cœur. Comme mère, elle souffrait dans ses enfants. Et comme chrétienne, elle souffrait pour tous. Elle se taisait et contenait ses cruels orages dans son âme. Son mari, seul arbitre du sort de sa famille, était le maître d'en régler à son gré la destinée. Il n'en devait compte qu'à Dieu. D'ailleurs, pouvait-elle lui reprocher l'emploi de sa fortune, après le désintéressement dont il avait fait preuve pendant 10 années de mariage? Était-elle juge de ses desseins? Mais sa conscience, d'accord avec le sentiment et les lois, lui disait que les parents étaient les dépositaires de la fortune et n'avaient pas le droit d'aliéner le bonheur matériel de leurs enfants. Pour ne point résoudre ces hautes questions, elle aimait mieux fermer les yeux, suivant l'habitude des gens qui refusent de voir l'abîme au fond duquel ils savent devoir rouler. Depuis 6 mois, son mari ne lui avait plus remis d'argent pour la dépense de sa maison. Elle fit vendre secrètement à Paris les riches parures de diamants que son frère lui avait données au jour de son mariage et introduisit la plus stricte économie dans sa maison. Elle renvoya la gouvernante de ses enfants et même la nourrice de Jean. Jadis, le luxe des voitures était ignoré de la bourgeoisie, à la fois si humble dans ses mœurs, si fière dans ses sentiments. Rien n'avait donc été prévu dans la maison Claes pour cette invention moderne. Balthazar était obligé d'avoir son écurie et sa remise dans une maison en face de la sienne. Ses occupations ne lui permettaient plus de surveiller cette partie du ménage qui regarde essentiellement les hommes. Madame Claes supprima la dépense onéreuse des équipages et des gens que son isolement rendait inutile. Et malgré la bonté de ses raisons, elle n'essaya point de colorer ses réformes par des prétextes. Jusqu'à présent, les faits avaient démenti ses paroles, et le silence était désormais ce qui convenait le mieux. Le changement du train des Claes n'était pas justifiable dans un pays où, comme en Hollande, quiconque dépense tout son revenu passe pour un fou. Seulement, comme sa fille aînée, Marguerite, allait avoir 16 ans, Joséphine parut vouloir lui faire faire une belle alliance et la placer dans le monde, comme il convenait à une fille alliée au Molina, au Van Ostrom Temnik et au Casa Real. Quelques jours avant celui pendant lequel commence cette histoire, l'argent des diamants était épuisé. Ce même jour, à 3 heures, en conduisant ses enfants à vêpres, Madame Claes avait rencontré Pierre Quint, qui venait la voir. et qu'il accompagna jusqu'à Saint-Pierre, en causant à voix basse sur sa situation. « Ma cousine, dit-il, je ne saurais, sans manquer à l'amitié qui m'attache à votre famille, vous cacher le péril où vous êtes, et ne pas vous prier d'en conférer avec votre mari. Qui peut, si ce n'est vous, l'arrêter sur le bord de l'abîme où vous marchez? Les revenus des biens hypothéqués ne suffisent point à payer les intérêts des sommes empruntées. Ainsi vous êtes aujourd'hui sans aucun revenu. Si vous coupiez les bois que vous possédez, ce serait vous enlever la seule chance de salut qui vous restera dans l'avenir. Mon cousin Balthazar est en ce moment débiteur d'une somme de 30 000 francs à la maison Protée Chiffreville de Paris. Avec quoi le paierez-vous? Avec quoi vivrez-vous? Et que deviendrez-vous si Claès continue à demander des réactifs, des verreries, des piles de Volta et autres brimborions? Toute votre fortune, moins la maison et le mobilier, s'est dissipée en gaz et en charbon. Quand il a été question, avant-hier, d'hypothéquer sa maison, savez-vous quelle a été la réponse de Claès? Diable! Voilà depuis 3 ans la première trace de raison qu'il ait donnée. Madame Claès pressa douloureusement le bras de Pierre Quint, leva les yeux au ciel et dit: gardez-nous le secret. Malgré sa piété, la pauvre femme, anéantie par ces paroles d'une clarté foudroyante, ne put prier. Elle resta sur sa chaise entre ses enfants, ouvrit son paroissien et n'en tourna pas un feuillet. Elle était tombée dans une contemplation aussi absorbante que l'étaient les méditations de son mari. L'honneur espagnol, la probité flamande, résonnaient dans son âme, d'une voix aussi puissante que celle de l'orgue. La ruine de ses enfants était consommée. Entre eux et l'honneur de leur père, il ne fallait plus hésiter. La nécessité d'une lutte prochaine, entre elle et son mari, l'épouvantait. Il était à ses yeux si grand, si imposant, que la seule perspective de sa colère l'agitait autant que l'idée de la majesté divine. Elle allait donc sortir de cette constante soumission dans laquelle elle était saintement demeurée, comme épouse. L'intérêt de ses enfants l'obligerait à contrarier dans ses goûts un homme qu'elle idolâtrait. Ne faudrait-il pas souvent le ramener à des questions positives, quand il planerait dans les hautes régions de la science, le tirer violemment d'un riant avenir, pour le plonger dans ce que la matérialité présente de plus hideux aux artistes et aux grands hommes? Pour elle, Balthazar Claès était un géant de la science, un homme gros de gloire. Il ne pouvait l'avoir oublié que pour les plus riches espérances. Puis, il était si profondément sensé, elle l'avait entendu parler, avec tant de talent, sur les questions de tout genre, qu'il devait être sincère en disant qu'il travaillait pour la gloire et la fortune de sa famille. L'amour de cet homme, pour sa femme et ses enfants, n'était pas seulement immense, il était infini. Ses sentiments n'avaient pu s'abolir. Il s'était sans doute agrandi, en se reproduisant sous une autre forme. Elle, si noble, si généreuse et si craintive, allait faire retentir incessamment aux oreilles de ce grand homme le mot argent et le son de l'argent, lui montrer les plaies de la misère, lui faire entendre les cris de la détresse, quand il entendrait les voix mélodieuses de la renommée. Peut-être l'affection que Balthazar avait pour elle s'en diminuerait-elle. Si elle n'avait pas eu d'enfant, elle aurait embrassé courageusement et avec plaisir la destinée nouvelle que lui faisait son mari. Les femmes élevées dans l'opulence sentent promptement le vide que couvrent les jouissances matérielles, et quand leur cœur, plus fatigué que flétri, leur a fait trouver le bonheur que donne un constant échange de sentiments vrais, elles ne reculent point devant une existence médiocre, si elle convient à l'être par lequel elles se savent aimer. Leurs idées, leurs plaisirs sont soumis aux caprices de cette vie, en dehors de la leur. Pour elles, le seul avenir redoutable est de la perdre. En ce moment donc, ces enfants séparaient Pepita de sa vraie vie, autant que Balthazar Claës s'était séparé d'elle par la science. Aussi, quand elle fut revenue de Vêpres et qu'elle se fut jetée dans sa bergère, renvoya-t-elle ses enfants en réclamant d'eux le plus profond silence. Puis, elle fit demander à son mari de venir la voir. Mais quoique le muletinier, le vieux valet de chambre, eût insisté pour l'arracher à son laboratoire, Balthazar y était resté. Madame Claës avait donc eu le temps de réfléchir. Et elle aussi demeura songeuse, sans faire attention à l'heure, ni au temps, ni au jour. La pensée de devoir 30 000 francs et de ne pouvoir les payer réveilla les douleurs passées, les joignit à celles du présent et de l'avenir. Cette masse d'intérêts, d'idées, de sensations, la trouva trop faible. Elle pleura. Quand elle vit entrer Balthazar, dont la physionomie lui parut plus terrible, plus absorbée, plus égarée qu'elle ne l'avait jamais été, quand il ne lui répondit pas, elle resta d'abord fascinée par l'immobilité de ce regard blanc et vide, par toutes les idées dévorantes que distillait ce front chauve. Sous le coup de cette impression, elle désira mourir. Quand elle eut entendu cette voix insouciante, exprimant un désir scientifique, au moment où elle avait le cœur écrasé, son courage revint. Elle résolut de lutter contre cette épouvantable puissance qui lui avait ravi un amant, qui avait enlevé à ses enfants un père, à la maison une fortune, à tous le bonheur. Néanmoins, elle ne put réprimer la constante trépidation qui l'agita, car, dans toute sa vie, il ne s'était pas rencontré de scène si solennelle. Ce moment terrible ne contenait-il pas virtuellement son avenir, et le passé ne s'y résumait-il pas tout entier? Maintenant, les gens faibles, les personnes timides, ou celles à qui la vivacité de leurs sensations agrandit les moindres difficultés de la vie, les hommes que saisit un tremblement involontaire devant les arbitres de leur destinée, peuvent tous concevoir les milliers de pensées qui tournoyèrent dans la tête de cette femme et les sentiments sous le poids desquels son cœur fut comprimé. Quand son mari se dirigea lentement vers la porte du jardin, la plupart des femmes connaissent les angoisses de l'intime délibération contre laquelle se débattit Madame Claës. Ainsi, celles-mêmes dont le cœur n'a encore été violemment ému que pour déclarer à leur mari quelque excédent de dépenses ou des dettes faites chez la marchande de mode, comprendront combien les battements du cœur s'élargissent alors qu'il s'en va de toute la vie. Une belle femme a de la grâce à se jeter aux pieds de son mari. Elle trouve des ressources dans les poses de la douleur, tandis que le sentiment de ses défauts physiques augmentait encore les craintes de Madame Claës. Aussi, quand elle vit Balthazar près de sortir, son premier mouvement fut-il bien de s'élancer vers lui, mais une cruelle pensée réprima son élan. Elle allait se mettre debout devant lui. Ne devait-elle pas paraître ridicule à un homme qui, n'étant plus soumis aux fascinations de l'amour, pourrait voir juste? Joséphine eût volontiers tout perdu, fortune et enfant, plutôt que d'amoindrir sa puissance de femme. Elle voulut écarter toute chance mauvaise dans une heure si solennelle, et appela fortement. « Balthazar !» Il se retourna machinalement et toussa. Mais sans faire attention à sa femme, il vint cracher dans une de ces petites boîtes carrées placées de distance en distance le long des boiseries, comme dans tous les appartements de la Hollande et de la Belgique. Cet homme, qui ne pensait à personne, n'oubliait jamais les crachoirs, tant cette habitude était invétérée. Pour la pauvre Joséphine, incapable de se rendre compte de cette bizarrerie, le soin constant que son mari prenait du mobilier lui causait toujours une angoisse inouïe. Mais, dans ce moment, elle fut si violente qu'elle la jeta hors des bornes et lui fit crier d'un ton plein d'impatience, où s'exprimèrent tous ses sentiments blessés.
« Mais, monsieur, je vous parle !»«
Qu'est-ce que cela signifie ?» répondit Balthazar en se retournant vivement et lançant à sa femme un regard où la vie revenait et qui fut pour elle comme un coup de foudre. « Pardon, mon ami, » dit-elle en pâlissant. Elle voulut se lever et lui tendre la main, mais elle retomba sans force. « Je me meurs, » dit-elle d'une voix entrecoupée par des sanglots. À cet aspect, Balthazar eut, comme tous les gens distraits, une vive réaction, et devina, pour ainsi dire, le secret de cette crise. Il prit aussitôt Madame Claës dans ses bras, ouvrit la porte, qui donnait sur la petite antichambre, et franchit si rapidement le vieil escalier de bois, que la robe de sa femme, ayant accroché une gueule des tarasques, qui formaient les balustres, il en resta un lait entier, arraché à grand bruit. Il donna, pour l'ouvrir, un coup de pied à la porte du vestibule, commun à leurs appartements. Mais il trouva la chambre de sa femme fermée. Il posa doucement Joséphine sur un fauteuil, en se disant « Mon Dieu, où est la clé ?»«
Merci, mon ami, » répondit Madame Claës en ouvrant les yeux. « Voici la première fois depuis bien longtemps que je me suis senti si près de ton cœur.
« Bon Dieu !» cria Claës. « La clé, voici nos gens !»
Joséphine lui fit signe de prendre la clé, qui était attachée à un ruban, le long de sa poche. Après avoir ouvert la porte, Balthazar jeta sa femme sur un canapé, sortit pour empêcher ces gens effrayés de monter, en leur donnant l'ordre de promptement servir le dîner, et vint avec empressement retrouver sa femme.
« Qu'as-tu, ma chère vie ? » dit-il en s'asseyant près d'elle, et lui prenant la main qu'il baisa.
« Mais je n'ai plus rien, » répondit-elle. « Je ne souffre plus. Seulement, je voudrais avoir la puissance de Dieu pour mettre à tes pieds tout l'or de la terre.
« Pourquoi de l'or ? » demanda-t-il. Et il attira sa femme sur lui, la pressa et la baisa de nouveau sur le front. « Ne me donnes-tu pas de plus grandes richesses ? En m'aimant comme tu m'aimes, chère et précieuse créature, reprit-il. Ô mon Balthazar, pourquoi ne dissiperais-tu pas les angoisses de notre vie à tous, comme tu chasses par ta voix le chagrin de mon cœur? Enfin, je le vois, tu es toujours le même. De quelle angoisse parles-tu, ma chère?
Mais nous sommes ruinés, mon ami.
Ruinés? Répéta-t-il, il se mit à sourire, caressa la main de sa femme en la tenant dans les siennes et dit d'une voix douce, qui depuis longtemps ne s'était pas fait entendre, « Mais demain, mon ange, notre fortune sera peut-être sans bornes. Hier, en cherchant des secrets bien plus importants, je crois avoir trouvé le moyen de cristalliser le carbone, la substance du diamant. Oh, ma chère femme, dans quelques jours, tu me pardonneras mes distractions. Il paraît que je suis distrait quelquefois. Ne t'ai-je pas brusqué tout à l'heure ? Sois indulgente pour un homme qui n'a jamais cessé de penser à toi, dont les travaux sont tout pleins de toi, de nous.
Assez, assez, dit-elle. Nous causerons de tout cela ce soir.
Mon ami, je souffrais par trop de douleurs. Maintenant je souffre par trop de plaisir. Elle ne s'attendait pas à revoir cette figure animée par un sentiment aussi tendre pour elle qu'il l'était jadis, à entendre cette voix, toujours aussi douce qu'autrefois, et à retrouver tout ce qu'elle croyait avoir perdu. « Ce soir, » reprit-il, « je veux bien, nous causerons. Si je m'absorbais dans quelques méditations, « rappelle-moi cette promesse, » Ce soir, je veux quitter mes calculs, mes travaux, et me plonger dans toutes les joies de la famille, dans les voluptés du cœur, car, Pépita, j'en ai besoin, j'en ai soif. Tu me diras ce que tu cherches, Balthazar? Mais, pauvre enfant, tu n'y comprendrais rien, tu crois? Eh, mon ami, voici près de 4 mois que j'étudie la chimie. Pour pouvoir en causer avec toi, j'ai lu Fourcroix, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle, Berthollet, Gay-Lussac, Spallanzani, Leeuwenhoek, Galvani, Volta, enfin tous les livres relatifs à la science que tu adores. Va, tu peux me dire tes secrets. Oh, tu es un ange! S'écria Balthazar, en tombant aux genoux de sa femme, et versant des pleurs d'attendrissement, qui la firent tressaillir. Nous nous comprendrons en tout. Ah, dit-elle, je me jetterai dans le feu de l'enfer, qui attise tes fourneaux, pour entendre ce mot de ta bouche, et pour te voir ainsi. En entendant le pas de sa fille dans l'antichambre, elle s'y élança vivement. Que voulez-vous, Marguerite? Dit-elle à sa fille aînée. Ma chère mère, Monsieur Pierrequin vient d'arriver. S'il reste à dîner, il faudra du linge, et vous avez oublié d'en donner ce matin. Madame Claès tira de sa poche un trousseau de petites clés et les remit à sa fille, en lui désignant les armoires en bois des îles qui tapissaient cette antichambre, et lui dit : Ma fille, prenez à droite, dans les services de grain d'orge. Puisque mon cher Balthazar me revient aujourd'hui, rends-le-moi tout entier, dit-elle en rentrant et donnant à sa physionomie une expression de douce malice. Mon ami, va chez toi et fais-moi la grâce de t'habiller. Nous avons Pierrequin à dîner. Voyons, quitte ses habits déchirés. Tiens, vois ses taches. N'est-ce pas de l'acide muriatique ou sulfurique qui a bordé de jaune tous ces trous? Allons, rajeunis-toi. Je vais renvoyer Mulquinier quand j'aurai changé de robe. Balthazar voulut passer dans sa chambre par la porte de communication, mais il avait oublié qu'elle était fermée de son côté. Il sortit par l'antichambre. Marguerite, mets le linge sur un fauteuil et viens m'habiller. Je ne veux pas de Martha, dit Madame Claès en appelant sa fille. Balthazar avait pris Marguerite, l'avait tournée vers lui par un mouvement joyeux, en lui disant « Bonjour, mon enfant, tu es bien jolie aujourd'hui, dans cette robe de mousseline, et avec une ceinture rose. » Puis il la baisa au front et lui serra la main. « Maman, papa vient de m'embrasser, » dit Marguerite en entrant chez sa mère. « Il paraît bien joyeux. » Bien heureux. Mon enfant, votre père est un bien grand homme. Voici bientôt 3 ans qu'il travaille pour la gloire et la fortune de sa famille. Et il croit avoir atteint le but de ses recherches. Ce jour doit être pour nous tous une belle fête. Ma chère maman, répondit Marguerite, nos gens étaient si tristes de le voir renfrogné que nous ne serons pas seuls dans la joie. Oh, mettez donc une autre ceinture. Celle-ci est trop fanée. Soit. Mais dépêchons-nous. Je veux aller parler à Pierrequin. Où est-il? Dans le parloir. Il s'amuse avec Jean. Où sont Gabriel et Félicie? Je les entends dans le jardin. Eh bien, descendez vite veiller à ce qu'ils n'y cueillent pas de tulipes. Votre père ne les a pas encore vus de cette année. Et il pourrait aujourd'hui vouloir les regarder en sortant de table. Dites à Mulquinier de monter à votre père tout ce dont il a besoin pour sa toilette. Quand Marguerite fut sortie, Madame Claès jeta un coup d'œil à ses enfants par les fenêtres de sa chambre qui donnait sur le jardin et les vit occupés à regarder un de ces insectes à ailes vertes, luisantes et tachetées d'or, vulgairement appelées des couturières. Soyez sages, mes bien-aimés, dit-elle en faisant remonter une partie du vitrage
qui était à coulisses, et qu'elle arrêta pour aérer sa chambre. Puis elle frappa doucement à la porte de communication, pour s'assurer que son mari n'était pas retombé dans quelque distraction. Il ouvrit et elle lui dit, d'un accent joyeux, en le voyant déshabillé, « Tu ne me laisseras pas longtemps seul avec Pierre Quint, n'est-ce pas ? Tu me rejoindras promptement. » Elle se trouva si leste pour descendre qu'en l'entendant, un étranger n'aurait pas reconnu le pas d'une boiteuse. « Monsieur en emportant madame, lui dit le valet de chambre, qu'elle rencontra dans l'escalier, a déchiré la robe. Ce n'est qu'un méchant bout d'étoffe, mais il a brisé la mâchoire de cette figure, et je ne sais pas qui pourra la remettre. Voilà notre escalier déshonoré. Cette rampe était si belle. Bah, mon pauvre mulquinier, ne la fais pas raccommoder. Ce n'est pas un malheur. Qu'arrive-t-il donc ? Se dit mulquinier, pour que ce ne soit pas un désastre. Mon maître aurait-il trouvé l'absolu ? Bonjour, monsieur Pierre Quint, dit madame Claes en ouvrant la porte du parloir. Le notaire accourut pour donner le bras à sa cousine, mais elle ne prenait jamais que celui de son mari. Elle remercia donc son cousin par un sourire et lui dit « Vous venez peut-être pour les 30 000 francs ?»« Oui, madame. En rentrant chez moi, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison protégée Chiffreville qui a tiré sur M. Claes 6 lettres de change de chacune 5 000 francs. « Eh bien, n'en parlez pas à Balthazar aujourd'hui, » dit-elle. « Dînez avec nous. Si par hasard il vous demandait pourquoi vous êtes venu, trouvez quelque prétexte plausible. Je vous en prie. Donnez-moi la lettre. Je lui parlerai moi-même de cette affaire. Tout va bien, » reprit-elle en voyant l'étonnement du notaire. « Dans quelques mois, mon mari remboursera probablement les sommes qu'il a empruntées. » En entendant cette phrase dite à voix basse, le notaire regarda mademoiselle Claes, qui revenait du jardin, suivie de Gabriel et de Félicie, et dit « Je n'ai jamais vu mademoiselle Marguerite aussi jolie qu'elle l'est en ce moment. » Madame Claes, qui s'était assise dans une bergère et avait pris sur ses genoux le petit Jean, leva la tête, regarda sa fille et le notaire, en affectant un air indifférent.